Nous allons prier quelques instants pour que notre cœur, qui est souvent encombré par les charges, les soucis, les tristesses de la vie, puisse être attentif à la parole de Jésus. Tu as parlé pour être entendu, et ta parole nous guérit, nous appelle, nous attire. C'est par ta parole que tu as créé le monde. C'est par ta parole que tu nous recrées. Car notre vie s'est défaite. Nous avons besoin de toi dans nos tristesses, nos fautes, nos erreurs, nos maladies. Parle à chacun. Touche notre cœur par ton évangile. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons ensemble faire la lecture de l'évangile de Jean, ce que vous avez sur les feuilles, au chapitre 21, chapitre 20, pardon. Mais je vais d'abord lire deux petits versets qui ne sont pas écrits ici, mais ils sont importants pour comprendre. Jean, chapitre 20 pour moi, et vous allez tout de suite reprendre le rythme au bout de quelques mots. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Sur les feuilles. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Chers amis, la question que l'on pourrait se poser à cette époque, à qui Jésus devait-il donner sa première apparition de ressuscité? Certains me diront à Marie, sa mère, elle qui a été dans son cœur transpercée par le chagrin et la douleur quand son fils était sur la croix. D'autres me diront à Pierre, qui avait reçu les clés du royaume et qui avait entendu cette parole, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » À Jean, le disciple fidèle, le premier à croire, celui qui va jusqu'au bout, le jour de la croix. Ou peut-être que Jésus aurait dû commencer par tous ceux qui l'ont crucifié, tous ceux qui l'ont humilié, pour leur dire, « Eh bien, voyez-vous, j'ai gagné quand même. » Non. Qui aurait pensé à Marie de Magdala? Marie la Magdaléenne, elle vient de la ville de Magdala. On l'appelait aussi la Magdaléenne, on l'appelle aussi Marie-Madeleine. Et cette femme, voilà comment les apôtres en parlent. Jésus apparut à Marie de Magdala d'abord, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle était connue ainsi, 7 démons. Cette Marie de Magdala, ce n'est pas Marie de Béthanie qui donne son parfum sur les pieds de Jésus. Ce n'est pas non plus la femme pécheresse qui pleure sur les pieds de Jésus. Pardonnez-moi de le préciser, ce n'est pas non plus la femme de Jésus. Comme certains fabulistes l'ont dit, c'est pas non plus, c'est pas écrit, une prostituée. Parce que être délivrée de 7 démons, ça ne veut pas dire qu'elle avait une vie déréglée. Dans l'Évangile, il y a des enfants qui ont eu des démons que Jésus a délivrés. Et ces enfants n'étaient pas déréglés dans leur vie. Être habité par un démon, c'est avoir une souffrance en soi, une oppression, un tourment intérieur. C'est un manque de liberté de penser et d'agir. Jésus avait pitié de ceux qui étaient tourmentés par les démons, parce qu'en eux, il y avait une volonté étrangère qui les dominait. 7 démons. Il y a un enfant dans l'Évangile, il n'avait qu'un démon qui le tourmentait jusqu'à le pousser à se jeter dans l'eau pour se noyer, à se jeter dans le feu pour se détruire. C'est dire l'importance de ce mal. Mais à l'approche de Jésus, à la parole de Jésus, quand il dit « Esprit impur, sœur, ne rentre plus », ces esprits méchants sortaient et la personne était libérée. Voilà le passé de Marie de Magdala. Retirée quand même d'une vie de tourment, de détresse, d'une fosse de destruction, parce qu'on se détruit par des tourments intérieurs, et élevée si haut, jusque dans la lumière, du ressuscité. Aujourd'hui, sans attendre Pâques, nous voudrions connaître cette rencontre avec le Christ ressuscité dans les tourments que nous avons à l'intérieur de nous, les soucis, les souffrances. Vous comprenez maintenant son attachement à Jésus, son attachement de confiance, de reconnaissance, d'amour. On a exagéré, on a déformé. Elle aime Jésus comme Pierre aimait Jésus, comme j'aime Jésus. Elle l'aime parce que elle sait de quoi elle a été délivrée. Elle sait d'où elle vient. Et quand on sait que l'on vient du mal, de la boue, on aime celui qui nous a sauvés. Et elle veut le suivre partout. Avec d'autres femmes, une petite équipe de femmes, Jeanne et d'autres, elle assiste Jésus matériellement. Parce qu'il n'avait rien à lui. Et parce qu'elle ne voulait pas que les choses de la vie pèsent trop lourdement sur ses épaules. Alors elle l'assiste dans des besoins matériels, peut-être de nourriture, je ne sais pas. Mais surtout, Marie de Magdala, elle veut être toujours avec Jésus. Dans ses miracles, dans ses fatigues, dans ses humiliations, dans ses souffrances, dans sa mort, elle veut toujours être là. Mais suivre Jésus, c'est pas simple. Ce sont des privations, c'est du danger. Je te suivrai partout, mais c'était pas facile. C'est encore pas facile. Et que devient Marie de Magdala au grand jour de la bousculade, le dernier jour de Jésus? On l'arrête là? On le juge? Tribunal de pacotille, une nuit? On le condamne? On le crucifie? On le met au même niveau que les bandits? C'est le vide. Pour Marie de Magdala, tout s'arrête. Et puis en plus, un apôtre renie Jésus, un apôtre trahit Jésus, et les autres s'en vont. Il ne reste plus que quelques femmes qui regardent la crucifixion de loin parce qu'elles avaient la crainte des autorités religieuses. Mais quatre de ces femmes ont traversé la foule et sont venues au pied de la croix. Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Clopas, une tante à Jésus, et Marie de Magdala. Ce qui veut dire que Marie de Magdala, elle a pu entendre toutes les paroles de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi m'as-tu abandonné? Elle assiste Jésus quand il est vivant. Elle assiste Jésus quand il est mourant. Et Jésus meurt devant Marie de Magdala. Il n'y a pas de parenté entre eux. Marie de Magdala, elle n'a pas un ministère apostolique. Jésus meurt devant Marie de Magdala. Comme les autres, elle ne comprend pas. Une mort banale, honteuse, obscure. Elle ne comprend pas la résurrection, elle ne comprend pas la mort de Jésus. C'est pourquoi, tellement attachée à Jésus, elle veut être la première à embaumer Jésus le matin de Pâques, après le sabbat. Et elle vient dans la nuit de son deuil. Elle vient revoir son ami, son rabouni, qui veut dire « mon maître à moi ». Elle vient le revoir. Elle a ce souci parce qu'elle a vu la pierre la veille. Qui nous roulera la pierre? Une pierre fermée le tombeau. Mais que voit-elle? La pierre est enlevée. Il n'y a pas de déclic dans son cœur. Elle ne dit pas « Ah, c'est fait, il est ressuscité ». Pas du tout. Elle arrive, elle se penche sur le tombeau vide. Pas de déclic dans son cœur. Elle ne dit pas « Il n'est plus là, donc il est ressuscité ». Non. Elle n'attend pas la résurrection. La preuve, elle vient avec des parfums, des herbes, aromatique pour embaumer Jésus. Elle n'attend pas la résurrection. Elle pleure comme les apôtres. Tout le monde pleurait. C'était un deuil. Et elle a couru vers Pierre et Jean. Et tout de suite, elle leur a dit, ils ont enlevé, il n'est pas ressuscité, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle cherche Jésus plutôt mort que vivant. Mais mes amis, l'espérance chrétienne, c'est quoi? L'espérance chrétienne, c'est un tombeau vide. Pâques est une libération. Nous avons été libérés de la mort. autrefois libéré de l'Égypte, et devant ce tombeau vide, eh bien, elle aurait pu penser que c'était le signe d'une grande espérance, comme Jésus l'avait dit. Elle, elle pleure. Et dans la langue des apôtres, elle pleure en sanglots. Et même, littéralement, elle pleure bruyamment. Elle fait du bruit, elle sanglote, ça s'entend. Dans le cimetière, mais elle est seule. Elle n'a plus que cela à donner à son ami. Des pleurs, encore des pleurs. C'est un écho poignant dans le cimetière. Elle se sent perdue comme une enfant abandonnée, doublement abandonnée. Abandonnée parce que Jésus est mort, abandonnée parce qu'on ne retrouve pas le corps. Et quand on ne retrouve pas un corps, c'est un deuil encore plus difficile, parce qu'on a besoin de voir. Et en plus, Pierre et Jean ont abandonné Marie de Magdala. Ils ont vu le tombeau vide, ils sont repartis, ils l'ont abandonné dans ses pleurs parce qu'ils sont incapables de lui répondre. Et Marie se penche sur l'intérieur du tombeau. Elle n'a que deux solutions dans sa tête. Ou il est ressuscité, ou quelqu'un l'a enlevé, bien sûr. Elle se penche pour regarder, bien qu'il n'y a rien à regarder. Mais on a besoin de voir. Jusqu'au bout, on veut voir le cercueil. Jusqu'au bout, on veut voir la terre. Jusqu'au bout, nos yeux ne se tarissent pas de voir pour avoir une consolation. Et que voit-elle dans le tombeau ? Deux anges, littéralement, en train de s'asseoir, viennent d'arriver, en train de s'asseoir. Et elle n'est pas choquée, elle n'est pas surprise, elle n'est pas effrayée. Et quand les anges lui disent « Pourquoi pleures-tu ?» Elle n'est pas choquée. Alors qu'ils sont dans un tombeau qui sent encore le parfum des aromates que Jésus avait reçu deux jours avant. Et elle, elle leur répond, sans bien réaliser, je ne sais pas, que ce sont des anges, elle leur répond, « Je pleure parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Le déclic de la foi, pas encore là. Elle reste tout près du tombeau, comme si elle attendait une lueur d'espérance, ou plutôt comme si elle attendait une réponse pour le corps disparu. Elle veut retrouver le corps parce que pour elle, le corps sans vie de Jésus, c'est le Seigneur. Elle va se contenter d'un Seigneur mort, mais elle veut retrouver son corps. On a besoin de concret. Elle le demande aux deux anges. On ne sait pas où il est, une question. Ces anges qui ne la choquent pas, la bouleversent pas. Elle est aveuglée par le chagrin, aveuglée par la tristesse. Elle aurait dû poser une question à ces deux anges. La seule question, pourquoi êtes-vous là? Qui vous a amené ici? Que se passe-t-il? Je cherche un nommé Jésus, mon ami, Rabouni, et voilà que vous êtes là à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne pose pas la question. Elle le demande à Jésus-Christ lui-même. Où est-il? Parce que derrière elle, il y a quelqu'un. Elle pose la question à cet homme qu'elle confond avec Jésus. Elle le confond avec un jardinier. Et elle pose la question, même à Jésus, où est Jésus? Est-ce que tu l'as pris? Parce que voyez-vous, cet homme qui est derrière elle, qui doit être que le jardinier, de grand matin il vient régler quelques petites affaires dans le jardin du tombeau, et elle soupçonne ce jardinier qu'elle ne voit pas encore, pas très bien. Et le soupçonne d'avoir volé le corps de Jésus, d'avoir caché le corps de Jésus. Et elle, elle veut récupérer le cadavre comme son bien personnel. Je le prendrai pour moi. Mais Marie, prendre le cadavre de Jésus, pourquoi faire ? Trouvez pas que c'est un désir un peu morbide ? Prendre le cadavre de son Seigneur, son Rabouni, peut-être pour le mettre dans un tombeau dignement, embaumé, parfumé. Parce que pour elle, Jésus-Christ est un mort et il faut un rite funéraire. Et le jardinier, enfin, Jésus, lui parle. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais elle ne regarde pas le jardinier, enfin, Jésus. Elle est à nouveau retournée, penchée sur le tombeau. Elle se penche sur le vide du tombeau. Elle ne fait pas attention à celui qui lui parle. Jésus lui parle et elle est tournée vers la mort. Elle est tournée en pleurs. Qui cherches-tu? Elle aurait dû répondre, je cherche Jésus. Ça aurait arrêté beaucoup de choses. Elle est quasiment sûre que cet homme qui est là de grand matin, qui ne peut être que le jardinier, et bien que c'est lui le voleur de cadavres, et ses yeux qui sont en larmes ne distinguent pas bien, je pense, alors elle va dire, Seigneur, on peut traduire monsieur, si c'est toi qui l'as pris, c'est toi le voleur, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, comme Pierre et Jean à la transfiguration. Comme Pierre à la transfiguration, il ne savait pas ce qu'il disait, tellement c'était grandiose. Et là, Marie, elle ne mesure pas les paroles. Je le prendrai. Elle ne dit pas, pourquoi l'as-tu emporté? Mais je veux le prendre surtout. Dites donc, mes amis, se croit-elle capable de prendre à elle toute seule un cadavre d'un homme de 33 ans? Se sent-elle capable de le prendre dans ses bras et de l'amener à quelques mètres, 10 mètres, 100 mètres, je ne sais pas, jusqu'au tombeau? Elle a vu Jésus à côté d'elle sans le voir. Elle a entendu Jésus sans l'entendre. Elle reste penchée sur le tombeau. Elle reste penchée sur la mort. Elle reste penchée sur son idéal. C'est souvent ce qui nous arrive. Il parle et nous n'entendons pas. Il nous fait signe et nous ne voyons pas. Seigneur, ouvre nos yeux sur toi et ton message. Pourquoi ne le reconnaît-elle pas? Son espérance déçue l'a aveuglée. Ses sentiments de deuil l'ont aveuglée. Sa souffrance l'aveugle tellement qu'elle ne voit plus personne. Elle n'entend plus personne. Plus rien ne la touche. Elle est dans son monde de chagrin. Nous pouvons être aveugles à côté de Jésus. Nous pouvons être sourds quand il nous parle. Parce que nous sommes dans un monde matériel, fermé, de déception aussi, de combat, de lutte. Mais Jésus prend son temps avec vous et aussi avec Marie de Magdala. Il prend son temps, il ne la brusque pas. Il ne la prend pas par les épaules pour la secouer. Mais Marie, réveille-toi. Non, ce n'est pas comme cela que Jésus agit. Nous, oui, pas lui. Parce que la foi, c'est une rencontre de cœur avec Jésus. Jésus est le chef de la foi. C'est lui qui conduit la rencontre. Et il va mettre un terme à cet aveuglement, cet endurcissement, cette surdité. Elle est toujours penchée sur le tombeau. Elle doit voir dans le tombeau, comme Jean l'a vu, le linge, le suaire qui est sur la tête de Jésus roulé. Elle a dû voir les bandelettes que Marie, que Joseph d'Arimathée avait mis autour du corps de Jésus. Elle a dû voir toutes ces bandelettes parce que Jean a vu cela. Il n'a rien enlevé, Jean. Donc elle a vu les bandelettes. Un habillage mortuaire où rien n'avait changé, mais qui était vide. Il y avait l'habillage, mais comme une coque vide, il n'y avait plus rien dedans. Jésus n'est pas réanimé, Jésus est ressuscité. Il a traversé les linges, traversé les bandelettes. C'est une résurrection, un nouveau corps que nous ne comprenons pas encore. Au début, on pensait que Jésus ressuscité avec son propre corps comme Lazare. Mais Jésus a été transformé à sa résurrection. Marie de Magdala voit tous ces linges, elle voit le suaire, elle voit tout cela, et elle ne voit rien. Elle ne voit pas que ce sont des signes de la résurrection. Et tout à coup, Jésus lui dit enfin, « Marie, Marie, enfin elle se retourne, enfin elle se détourne du tombeau où il n'y a rien à voir. Elle se détourne de la mort parce qu'elle entend la voix. Nous sommes libérés du péché, de la vie qui n'a pas de sens. Nous sommes libérés par un appel. Marie. Jésus dit, je les appelle par leur nom et elles me suivent, ces brebis. Regardez comme cette rencontre est magnifique et regardez l'insistance de Jésus, la persévérance de Jésus, la patience de Jésus, l'insistance d'amour sans jugement. Il n'a pas reproché à Marie de Magdala son incrédulité, sa dureté, quand même un peu dure de cœur, d'oreille. C'est Jésus qui la trouve, qui ouvre ses yeux doucement, qui ouvre ses oreilles, qui ouvre son cœur. On a vu pendant toutes ces conférences le sourd muet guéri, l'aveugle de naissance guéri. Marie de Magdala, c'est une sourde, c'est une aveugle, et Jésus l'a guérie pour qu'elle voie la vérité. Jésus n'apparaît pas à Marie de Magdala dans la puissance éblouissante. Il apparaît dans la douceur de l'amour. Marie, cette voix, ce timbre, ce prénom, quelqu'un qui la connaît. Jésus se met au niveau de son cœur. Il se met à notre niveau. Il ne méprise personne, il ne refuse personne. Et Marie laisse son cri du cœur rabouni. Cela pourrait traduire mon maître à moi. Mon maître à moi. Mais Marie se replace comme une disciple, sans lui poser de questions. Elle ne l'appelle même pas Jésus. Parce que maintenant, ce n'est plus le Jésus de Nazareth, de la Galilée, c'est vraiment le Christ, celui qui est envoyé, le Fils de Dieu dans toute sa grandeur. Rabouni. La relation personnelle est renouée. Sans condition, sans mériter quoi que ce soit, sans prouver quoi que ce soit. Ce qui est beau dans ce texte, c'est que la résurrection de Jésus, elle est vue pour la première fois par un être humain, une femme, Marie de Magdala. Pour la première fois, une femme sur la terre, et pas une femme qui a un passé simple, mais plutôt difficile, cette femme va entendre la voix du ressuscité pour aller la porter, cette voix, à ceux qui doivent l'annoncer au monde, les apôtres, pour qu'ils disent que la mort n'est pas ce qu'on imagine, que le ciel est ouvert, que Dieu est pour nous, avec nous, tourné vers nous. Marie de Magdala, première oreille humaine qui a entendu la voix de Jésus ressuscité avec trois mots, ils sont bons, ils sont beaux ces mots. Femme, pourquoi pleures-tu? Jésus vous adresse cette même parole. Pourquoi pleures-tu? Deuxième mot, qui cherches-tu? Dans ta vie, dans ton travail, dans tes occupations, qui cherches-tu? Et Marie, ça veut dire, je te connais par ton nom. Marie certainement veut prendre ses pieds, veut se prosterner. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me retiens pas. On peut traduire comme ça, ne me retiens pas. Et là, elle doit se dire, ah, encore l'absence. Ceux qui partent nous laissent une absence. On ne peut pas les retenir, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les prendre. C'est difficile. Quand on est ceux qui sont déjà partis avant nous, on aurait tellement voulu encore les prendre, les embrasser. L'avons-nous embrassé suffisamment? Jésus voudrait prendre encore ce Jésus. Mais c'est plus possible, mais maintenant elle a une assurance, c'est qu'il y a une vie de splendeur qui nous attend, dans laquelle personne n'est oublié. Parce que Jésus se rappelle de son prénom, évidemment, Marie. Tu n'as pas changé de prénom, tu seras toujours Marie de Magdala. Ne me retiens pas. On ne possède pas Jésus. Maintenant, c'est une nouvelle relation. J'habiterai chez lui. Je ferai ma maison chez lui. On ne l'invite plus à manger le soir. Il est toujours avec nous, en nous. Il y a une rupture par rapport au Jésus des évangiles. Chéréos, et toujours chéréos d'ailleurs, c'est compliqué. Il y a une rupture et une continuité. Il est, dans sa résurrection, sans quitter son espace à lui, il traverse notre espace et il apparaît. Il traverse notre monde et il se donne à voir. Il se montre, il se révèle. Le temps des pleurs est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas quand on perd quelqu'un. Mais un nouveau monde est arrivé, le monde de la vie éternelle. Alors, en relisant le texte que j'aime beaucoup, je vois le jardinier, je vois des fleurs, je vois des aromates, je vois un jardin. Ça me fait penser au premier jour, au jardin d'Éden, comme s'il y avait un petit clin d'œil que un paradis recommençait. Un paradis que l'on verra plus tard. Il y a déjà les fleurs et le jardin, et le jardinier. Enfin, je vais conclure avec cette parole de Jésus. Va trouver mes frères, les apôtres, qui pleurent. Il l'envoie vers l'église. Elle aurait pu être fâchée en disant, ah non, ces gens sans charité, qui m'ont laissé pleurer, qui m'ont pas dit un mot de réconfort. Et les apôtres auraient pu être fâchés de jalousie. Comment Jésus peut-il apparaître à cette femme et pas à nous? Nous qui avons été choisis pour être témoins. Jalousie. Colère. Mais j'aime dans ce texte un mot. Pas trouver mes frères. Mes frères. Dans nos fraternités compliquées, où les enfants ne s'entendent pas toujours, où l'un part, on ne sait pas où il va, dans la galère, où on ne se retrouve pas toujours ensemble. Dans nos fraternités fragiles, il y a un grand frère chez vous. Il y a un grand frère à la maison. C'est Jésus. Jésus est votre frère, votre grand frère. Mais quand il dit « va trouver mes frères », ça veut dire tout simplement « on vient d'un même père », n'est-ce pas ? On vient d'un même père et on ressemblera un jour à notre grand frère. Parce que dans une fratrie, on se ressemble et nous ressemblerons à ce qu'il est aujourd'hui, ressuscité. J'étais surpris quand même que dans ces épisodes de Pâques, chez les apôtres, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de cri, les apôtres sont passifs, sont lents à croire, et quand ils croient, ils sont calmes, ils sont dans la joie, mais je suis surpris de voir cette atmosphère paisible qui règne dans la résurrection. Mais rassurez-vous, enfin, je vous le dis, Marie de Magdala n'a pas été entendue. Les apôtres n'ont pas voulu écouter cette femme qui avait été délivrée de sept démons. Il y a peut-être des séquelles dans sa tête. Et par conséquent, ils ne l'ont pas prise au sérieux. Les évangiles nous le disent ailleurs. Pourtant, la splendeur qui nous attend est devant eux. Ce qu'il est, nous le saurons. Ce qu'il vit, nous le vivrons. La résurrection pour un monde parfait. Nous ne pouvons que ressusciter. On n'a pas d'autre choix. Quand on s'attache à Jésus, nous ne pouvons que ressusciter étant enfant du Père de Jésus-Christ. Mais au fond, on conclut, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça nous change, cette histoire d'apparition à Marie de Magdala ? Ça nous montre que Jésus ne se cache pas. Il se montre à voir, il se révèle. Je me ferai connaître à eux. Qui ? Eux. À moi, à vous. Je me ferai connaître. Il est la lumière qu'on peut voir. Et nous, les historiens disent qu'une gigantesque traînée d'espérance s'est répandue dans tous les pays de la Méditerranée après l'empereur Tibère. Tout le monde grec, tout le monde du Maghreb, tout ce monde jusqu'à Rome, ni les lions des arènes romaines, ni l'incendie de Rome, ni les tortures sur les jeunes, sur les vieillards, rien n'a pu arrêter la vague d'espérance en Jésus-Christ. Partout dans le monde où il y a aujourd'hui de la méchanceté, de la violence, des lueurs, des obscurités, dans les lieux d'abandon, de souffrance, dans les maisons de retraite où des gens sont abandonnés de tous, partout, une espérance s'est levée. Vous vivrez parce que je vis. Oh, dites donc, si Jésus apparaissait au milieu de nous aujourd'hui, là, je pense certainement qu'il apparaîtrait, quand je vois Marie de Magdala, je me dis il apparaîtrait, peut-être à la personne de qui on le pense le moins, et peut-être la personne qui l'attend le moins, personne qui dit « Oh, c'est pas pour moi, je suis trop petite, je suis trop faible, je... » Non, c'est pas pour moi. Marie de Magdala, sortie de la détresse, de la boue, de la misère, c'est à elle qu'il apparaît, pour nous dire, le plus bas tombé, le plus brisé dans la vie, le plus insignifiant peut-être, le plus pauvre, je l'aime et je me ferai connaître à lui. Je t'appelle par ton nom. Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parce que l'espérance ne meurt jamais. Amen. Je prie quelques secondes. Seigneur, apparais-nous, apparaît dans nos vies. Quand notre vie est triste et lourde, quand nous sommes dans le chagrin, quand nous ne comprenons pas le pourquoi de la vie, pour qui la vie, pourquoi la vie, apparaît-nous. Quand nous sommes penchés sur la tombe, sur la mort, apparaît-nous pour que dans nos cœurs chante une mélodie céleste. Jésus est ressuscité. Quel mal peut atteindre ceux qui s'attachent à Jésus? Garde-nous dans ce temps de Pâques et dans la suite. Et merci pour ta parole d'aujourd'hui. Amen.